Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les Guadeloupéens confinés ce matin, l'ouragan Maria s'est intensifié cette nuit. Il a déjà balayé la Martinique, y coupant l'électricité et se déplace donc vers le nord. Nous rejoindrons notre envoyé spécial à Pointe-à-Pitre dans un instant.
Nous irons ensuite en Birmanie où Aung San Suu Kyi s'est exprimée cette nuit sur l'exode forcé des Rohingyas. Un discours ambigu. Elle condamne les violations des droits de l'homme tout en défendant l'action de l'armée birmane.
Dans ce journal également, Jean-Marc Chardon nous expliquera pourquoi les économies prévues par le gouvernement en juillet sont revu à la baisse, 16 milliards d'euros en 2018 et non plus 20 milliards. Si, surtout, cela aura une incidence sur les réformes à venir.
Et puis, les assises de la mobilité s'ouvrent aujourd'hui. Les ONG demandent à développer le fret moins polluant, disent-elles. Trop cher, répond le gouvernement.
Dans un gros quart d'heure, Frédéric Saïs nous rejoindra pour son billet politique. Et cette question, le vrai ministre des Affaires étrangères est-il à l'Élysée ? Il a déjà balayé la Martinique, est au-dessus de la Dominique et se dirige vers la Guadeloupe ce matin. L'ouragan Maria, encore un dans les Antilles, est potentiellement catastrophique selon le Centre américain des ouragans. Il a été réévalué en catégorie 5 sur 5 avec des vents pouvant aller jusqu'à 200 km/h. 33 000 foyers martiniquais sont privés d'électricité. Les écoles y resteront fermées ce mardi. En Guadeloupe, à l'approche de l'ouragan, c'est confinement total de la population. Mathieu Mondoloni se trouve à Pointe-à-Pitre pour France Culture. Nous avons pu le joindre il y a quelques minutes seulement, évidemment à l'abri dans un appartement, à l'abri des bourrasques.
Les vents redoublent désormais de violence. Les premières rafales se font sentir ici sur l'île de la Guadeloupe. Elles tordent les arbres et la pluie, elle tombe non plus à la verticale mais parfois à l'horizontale, poussée par ces très fortes bourrasques également. Je suis actuellement à l'abri derrière un volet paracyclonique. J'entreaperçois la situation dehors. Il fait nuit noire mais on voit effectivement que l'ouragan Maria est en train d'approcher de cette île de la Guadeloupe. Pour l'instant, elle est à quelques kilomètres à peine des Saintes au sud de l'île et elle va se rapprocher de Basse-Terre en continuant sa route vers l'ouest. Basse-Terre où le centre opérationnel départemental a été délocalisé par la préfecture un peu plus tôt aujourd'hui de façon à se mettre à l'abri dans un bâtiment aux normes, un bâtiment paracyclonique et parasismique. Tout cela pour permettre évidemment un déploiement très rapide des secours dès la fin du pic du phénomène qui est attendu ici aux alentours de 3h du matin, soit 9h heure de métropole.
Mathieu Mondoloni, envoyé spécial de Radio France à Pointe-à-Pitre. Plus au nord, les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, déjà touchées par Irma il y a 10 jours, se préparent elles aussi à l'arrivée de l'ouragan Maria. Pendant ce temps à New York, lors de l'Assemblée générale de l'ONU, la France a de nouveau tenté de convaincre les États-Unis de rester dans l'accord de Paris sur le climat. Emmanuel Macron et Donald Trump se sont entretenus hier soir et même si chacun reste campé sur ses positions, si la Maison-Blanche souhaite toujours renégocier des termes plus favorables de l'accord de la COP21, eh bien la rencontre a été plus que cordiale entre les deux hommes, Isabelle Labéry.
Ils s'affichent tout sourire, échangent plusieurs poignées de main chaleureuses et se couvrent l'un et l'autre de compliments. Emmanuel Macron fait du super boulot en France, dit Donald Trump. Revenant sur son séjour à Paris le 14 juillet, le président américain avoue avoir été tellement impressionné par le défilé militaire qu'il envisage la même chose à Washington. En mieux, évidemment. Réponse d'Emmanuel Macron, les Français étaient fiers de vous avoir à Paris avec votre femme.
Our people in France were very proud to have you and your wife Melania.
Devant les caméras, pas question d'écorner la photo en abordant les questions de fond. En tête à tête, pourtant, les deux hommes évoquent franchement leurs divergences. Emmanuel Macron joue de sa bonne entente avec son homologue.
La force de cette relation, c'est que nous disons tout. Je ne dis pas que nous sommes d'accord sur tout, mais nous sommes d'accord sur beaucoup de choses. Les sujets en particulier de lutte contre le terrorisme et de maintien de la sécurité.
L'un pourtant défend avant tout son pays, America First, quand l'autre vante les mérites des relations multilatérales. Sans surprise, à la tribune de l'ONU aujourd'hui, les deux dirigeants devraient livrer deux visions du monde radicalement différentes.
Isabelle Labéry, à New York pour France Culture. Dominique de Villepin, vous êtes l'invité des matins de France Culture. Vous venez d'entendre Isabelle Labéry et notamment Donald Trump et Emmanuel Macron à New York. Je le disais, ils se divisent sur l'accord sur le climat. Que peut faire la France pour convaincre Donald Trump d'y rester ?
Alors, je ne crois pas du tout à un changement spontané de Donald Trump sur cette question si importante. Je crois qu'il y a deux facteurs qui peuvent, par contre, infléchir son jugement. Le premier, c'est la mobilisation très grande dans un monde post-climatique traité de Westphalie, c'est-à-dire où il n'y a pas que les États, mais il y a aussi des organisations non gouvernementales, des États fédérés aux États-Unis, des entreprises, des villes qui se mobilisent pour souscrire à cet accord et pour avancer indépendamment des positions prises par Donald Trump. Ça, c'est un premier élément de pression majeure. Il y a un deuxième élément, c'est que Donald Trump est convaincu que cette affaire de limitation de l'élévation des températures n'est pas une bonne affaire pour l'économie américaine et il veut à tout prix renégocier cet accord, ce qui est bien évidemment inacceptable. Je pense que sur le plan économique, la démonstration peut être faite et le sera rapidement aux États-Unis, qu'au contraire, ce serait une source d'emploi et d'innovation en matière économique extrêmement importante et que la voie qui est la sienne, conservatrice, est au contraire celle de la régression. Donc je crois qu'il y a des éléments de fond qui permettent d'avancer et qui ne doivent pas nous conduire à attendre un changement hypothétique de position de Donald Trump, mais à lui montrer, à lui apporter la preuve par neuf qu'il ne détient pas les clés de l'avenir.
Face aux provocations de Donald Trump. Merci beaucoup Dominique de Villepin, vous restez avec nous. Après ce journal, point de divergence également entre Donald Trump et Emmanuel Macron, le sort de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Donald Trump, qui a rencontré hier soir également le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, ne dissimule pas son hostilité envers ce texte. Un accord au contraire historique pour la France. Il garantit, je vous le rappelle, la nature exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien, en échange toujours d'une levée progressive des sanctions internationales. Les discours officiels à la tribune des Nations Unies débuteront donc cet après-midi à New York. Il sera également question de la crise en Birmanie. Cette nuit, Aung San Suu Kyi s'est adressée à la télévision au Birman pour la première fois depuis le début de l'exode des Rohingyas. Persécutée, cette minorité musulmane rejoint en masse le Bangladesh. Le discours de la prix Nobel de la paix, devenue conseillère d'État en Birmanie, était très attendu. Elle qui n'a jusque-là jamais montré ouvertement de compassion envers les Rohingyas. Son pays est prêt, dit-elle, à organiser le retour des réfugiés musulmans. Elle ne précise toutefois pas les critères de retour, habituellement très restrictifs. Preuve, une fois encore, qu'elle joue sur deux tableaux. Rémi Favre a suivi son discours à Rangoon pour France Culture.
Aung San Suu Kyi condamne toutes les violations des droits de l'homme. Elle évoque la souffrance de ceux qui ont fui, mais elle défend aussi l'action de l'armée qui, selon elle, a agi avec retenue dans l'état de l'Arakan. Elle minimise l'ampleur de la crise.
Depuis le 5 septembre, il n'y a pas eu d'affrontement ni d'opération de sécurité. Pourtant, un certain nombre de musulmans traversent la frontière pour fuir au Bangladesh. Pourquoi ? Je crois que peu de gens savent que la grande majorité des musulmans de l'état de l'Arakan n'ont pas fui. Plus de 50% des villages musulmans sont intacts.
Aung San Suu Kyi détaille ensuite l'action de son gouvernement dans l'état de l'Arakan. Création d'emplois, construction de routes, électrification. Elle a par exemple expliqué que les habitants de l'Arakan avaient tous accès à l'éducation sans discrimination, une affirmation étonnante puisque les Rohingyas ne peuvent pas entrer à l'université. Aung San Suu Kyi a demandé l'indulgence de la communauté internationale, rappelant que son équipe n'était aux affaires que depuis 18 mois et que les problèmes qu'elle doit régler sont très nombreux.
Rémi Favre à Rangoon pour France Culture. Il n'y aura finalement pas d'élection en Tunisie. L'instance chargée des municipales les a reportées. Ce devait être en décembre prochain les premières élections de l'après-révolution de 2011. La majorité des participants était pour ce report, s'est expliqué le président par intérim de l'instance organisatrice.
Les matins de France Culture, il est 8h09. La suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Le gouvernement nous avait promis des économies drastiques pour 2018. Elles seront finalement moins importantes que prévu.
Il lâche un peu de lest pour réduire le déficit. De 20 milliards, on passe à 16 milliards d'euros. Jean-Marc Chardon, bonjour.
Et bonjour.
Cet allègement budgétaire s'explique par une croissance un peu plus forte que prévu et de meilleures rentrées fiscales. Mais est-ce que cela signifie pour autant que les réformes annoncées pourraient être revues à la baisse ?
Il est certain qu'avec une croissance plus soutenue de la croissance, plus soutenue en tout cas, le gouvernement dispose d'une marge de manœuvre supérieure dans ses choix budgétaires. Et comme les prévisions 2018 sont elles aussi meilleures, c'est un atout de plus pour le gouvernement car c'est la tendance qui compte pour préparer un budget. Mais pas de quoi renoncer à sa trajectoire financière qui est de ramener, on le sait, le déficit sous la barre des 3%. Alors si les chiffres de croissance sont confirmés, ce sera chose faite d'ici la fin d'année, ce qui était attendu depuis longtemps. Et la France pourrait rejoindre les autres pays de la zone euro électoraux qui y sont parvenus pour la plupart. Il n'empêche que malgré ce regain de croissance, les économies annoncées, elles, ne sont pas toutes au rendez-vous. Et comme le gouvernement s'est engagé dans une politique de baisse de charges et d'impôts, il n'est pas dans son intention de relâcher les efforts du côté de la dépense publique. Les objectifs donc de baisse de dépenses publiques devraient être maintenus, mais pourraient être corrigés. On passerait de 20 à 16 milliards d'euros. Il pourrait donc y avoir un desserrement sur certains postes, peut-être des inflexions, mais a priori, pas de quoi remettre en cause le schéma initial.
Merci Jean-Marc Chardon, chef du service économie de France Culture. Des économies, la justice n'en veut, n'en peut plus. Une démarche inédite hier de la Cour de cassation. Le premier président et le procureur général ont fait appel à un spécialiste des finances publiques pour mener un travail de réflexion face au constat récurrent de la paupérisation. Les conclusions ont donc été rendues publiques. Ils ne réclament pas de moyens supplémentaires, mais proposent par exemple de séparer plutôt les budgets de la justice judiciaire et de l'administration pénitentiaire. Bertrand Louvel est le premier président de la Cour de cassation.
Il est acquis dans l'esprit des magistrats maintenant que l'administration pénitentiaire est très proche de la justice. Il y a des juges de l'application des peines qui font, je dirais, d'une certaine manière, fonctionner les prisons en veillant à l'adaptation des peines. Et il en est résulté une forme d'association entre la justice proprement dite et les prisons sur laquelle on peut difficilement revenir. En revanche, on peut s'interroger sur la confusion qui peut s'installer en termes budgétaires entre les ressources des uns et des autres. On a constaté que la part dans le budget du ministère de la Justice qui revient aux prisons s'accroît d'année en année, alors que la part revenant aux tribunaux, elle, diminue au contraire. Donc pour une meilleure lisibilité, il nous apparaît important que ces deux secteurs de dépenses soient rattachés à des missions budgétaires différentes.
Bertrand Louvel, interrogé par Florence Turme. Les ordonnances sur la réforme du droit du travail seront adoptées vendredi en Conseil des ministres. D'ici là, jeudi, après-demain, nouvelle journée de mobilisation qui rassemble un peu plus largement que jeudi dernier. L'UNSA cheminots, plutôt modérés, se joint à l'appel aux côtés notamment de la CGT. Pas d'appel au rassemblement. En revanche, ce jour-là pour Force ouvrière, au niveau national du moins. Hier, son secrétaire général Jean-Claude Mailly annonçait se joindre à la grève des fonctionnaires le 10 octobre prochain. Les assises de la mobilité débutent aujourd'hui. 3 mois de concertation entre les élus, ONG, syndicats, entreprises et le grand public. 3 mois de réflexion surtout autour des évolutions des modes de déplacement et de leur financement. Une loi sur la mobilité est annoncée pour début 2018. Priorité des ONG, relancer le fret ferroviaire. Comprenez le transport de marchandises par train. Explication signée Véronique Reberotte.
Malgré de beaux discours, le fret ferroviaire n'a cessé de chuter au profit du transport routier. Après-guerre, 75% des marchandises transitées en France par le rail, un taux descendu à 15% l'an passé. Transporter des containers par train permettrait de réduire notablement la pollution de l'air générée par les camions. Question de bon sens pour Daniel Ibanez de l'ONG Les Amis de la Terre. Il prend l'exemple du marché de Rungis près de Paris.
Rungis, on arrive pile dans le marché international de Rungis, marché de gros. On a une gare qui arrive et pourtant vous avez 3000 camions qui arrivent chaque jour. 3000 camions. Comment se fait-il que dans notre pays, on ne soit pas capable, comme nos voisins, de dire aux routiers, utilisez le train et on fait arriver les marchandises directement au lieu de faire rouler 3000 camions. C'est 3000 camions qui arrivent, mais il faut qu'ils ressortent. Donc vous en avez 3000 qui ressortent à vide. J'ose espérer que la ministre des Transports qui a géré à la RATP quelques problèmes de logistique soit à l'écoute des solutions extrêmement concrètes, peu coûteuses, simplement de bon sens. Et j'ose espérer que les routiers sont des gens qui sont aussi conscients des enjeux de santé publique et que si on leur offre des solutions concrètes, souples, d'utilisation des réseaux ferrés qui permettent de moins polluer, eh ben ils sont prêts à les utiliser.
L'écotaxe poids lourd abandonnée par Ségolène Royal aurait dû permettre de relancer le fret ferroviaire. Il serait pourtant normal que le transport routier contribue à cette relance, estime son successeur au ministère de l'écologie, Nicolas Hulot. Une écotaxe qui ne dirait pas son nom.
Véronique Reberotte pour France Culture. Une voiture de police incendiée, 2 fonctionnaires à l'intérieur et des images devenues virales dans les médias et sur les réseaux sociaux. C'était le 18 mai dernier. dernier à Paris. L'attaque d'une voiture de police en marge d'une manifestation interdite contre la loi travail et alors que les policiers manifestaient eux aussi ce jour-là pour leur sécurité. 9 personnes comparaissent aujourd'hui à Paris. Pendant près de 2 ans après les attentats du 13 novembre, un homme est toujours recherché. C'est une information de nos voisins de France Inter. Il aurait joué un rôle important dans les préparatifs, un inconnu en liberté. Alors qu'une cérémonie d'hommage national aux victimes du terrorisme a lieu ce matin aux Invalides, une cérémonie présidée par le Premier ministre Édouard Philippe. Depuis 2015, la multiplication des attentats multiplie aussi les commémorations, 4 ou 5 chaque année. Un devoir de mémoire nécessaire selon les associations. Sébastien Sabiron.
Istanbul, Londres, Bogota, les Champs-Élysées, une journée pour évoquer les victimes françaises des attentats de l'année. Un exercice difficile mais salutaire selon Philippe Duperron, président de 13 novembre Fraternité et Vérité.
On n'a évidemment pas besoin de manifestations commémoratives. La mémoire, la douleur, c'est une présence au quotidien. Mais on voit bien que dans l'esprit de nos amis, des gens que nous fréquentons, eh bien la mémoire, ça s'étiole un peu.
Les victimes attendent aussi que l'État s'affiche durablement à leur côté après quelques flottements ces derniers mois. Guillaume Denois de Saint-Marc, directeur général de l'Association française des victimes du terrorisme.
Les victimes ont eu le sentiment d'être un peu oubliées du fait qu'il n'y avait plus de secrétaire d'État à l'aide aux victimes et qu'on a fait disparaître le secrétaire général. Craintes qui maintenant sont apaisées, je pense, puisqu'on a pu voir la délégation interministérielle à l'œuvre, sachant que sur le plan politique, le sujet est porté à la fois par le président de la République, le Premier ministre et la garde des Sceaux.
Fondée en novembre 2015, l'association Life for Paris ne sera pas présente aujourd'hui, faute d'avoir été invitée à s'exprimer, sa présidente Caroline Langlade.
Je trouve difficile et douloureux qu'on demande à des personnes qui ont été victimes d'un attentat récent de ne pas porter la parole des victimes pour qui c'est encore très frais. Alors je sais qu'on est à 1 an et demi après. Si c'est pas possible, c'est pas grave. On fera différemment.
Life for Paris préfère se concentrer sur la prochaine commémoration, le 13 novembre.
Sébastien Sabiron, le ciel de ce mardi 19 septembre, Météo France prévoit des averses ce matin sur les côtes de la Manche et le centre-est. Elles se déplaceront cet après-midi sur les Hauts-de-France. Partout ailleurs, le temps sera plutôt calme mais nuageux, avec des températures encore fraîches. 8 petits degrés à Limoges ce matin, 9 à 3, 12 à La Rochelle, 14 à Nice. Et cet après-midi, pas plus de 8 degrés à Chambéry, 14 à Aurillac, 18 à Toulouse, 21 tout de même à Marseille et sur la Corse du Sud.
Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal. Merci notamment pour cette actualité internationale chargée de l'ONU à la Birmanie, à laquelle va réagir dans quelques minutes notre invité Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères. À 8h45, il y aura le billet culturel comme Mathilde Serrel. Il portera sur la 14e Biennale de Lyon. Et puis Aurélien Bélanger nous livrera sa conclusion définitive aujourd'hui sur le sabre laser. Et puis Frédéric Seitz, bonjour Frédéric.
Bonjour,
pour votre billet politique, vous voulez faire réagir Dominique de Villepin, c'est ça?
Oui, en tout cas, on s'interrogera sur la notion de domaine réservé du chef de l'État qui détient vraiment les clés de la diplomatie française.
Dans quelques instants.